Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débriefe l'actu tech tout de suite avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, la souriante Marjorie Paillon.
Tout à
salut
fait.
Marjorie.
Hello François.
Journaliste évidemment, à tes côtés Marjorie, c'est Salim qui est là. Salim Nassur.
Bonsoir.
Ça va Salim ?
Ça va super.
Voilà, fondateur de Mars avec deux A toujours, ancien directeur marketing de Google Cloud Europe et Frédéric Simatel.
Qui sourit aussi.
Mais oui, très souriant.
Content d'être là.
Il
voilà.
Mais oui.
C'est parfait, très
what
bien.
Else, comme dit l'autre.
Beaucoup de sujets dans l'actu ce soir que nous allons débriefer ensemble. Je le disais, Apple qui va observer le conseil d'administration d'OpenAI. C'est Phil Schiller qui s'y colle, tiens. C'est pas n'importe qui, hein. C'est quand même une figure d'Apple.
Bah,
on va en parler tout à l'heure. Pardon ?
C'est le patron de l'App Store.
C'est le patron de l'App Store, bien sûr. Il défend bec et ongle son App Store. On parlera aussi des émissions de carbone de Google et de Microsoft qui explosent à cause de l'IA, parce que forcément, l'IA est très consommatrice d'énergie, et la conséquence, c'est que le bilan carbone de ces boîtes n'est pas très bon. On parlera de Tesla aussi, qui vend toujours moins de voitures, contrairement à ses concurrents, mais les livraisons repartent à la hausse. Donc c'est plutôt paradoxal, mais on rentrera dans les détails avec Étienne Braque tout à l'heure. On va essayer de parler Netflix aussi, de DJI si on a le temps. Bref, on a plein de choses à vous raconter. Et on va commencer par écouter un petit cocorico quand même. Parce que c'est vrai que tous les soirs on évoque OpenAI, on parle de temps en temps de Mistral. Mais là on va évoquer une autre initiative 100% française qui est QTI, qui est le laboratoire de recherche français, qui a été fondé par Xavier Niel. Rodolphe Saadé, qui est le patron de CMA-CGM, qui est d'ailleurs le nouveau propriétaire de BFM, du groupe BFM et d'RMC, voilà, il faut le signaler. Et Eric Schmidt, un ancien de Google. En fait, ils ont mis pas mal d'argent, je crois, ils ont mis...
Même le boss de Google.
C'était le boss de Google. Voilà, mais c'était un ancien de Google aussi.
Et c'était d'ailleurs le patron aussi de Novell avant, Novell qui avait acheté WordPerfect, et WordPerfect dont le fondateur...
Oh, joli.
Bruce Reid est mort à l'âge de 74 ans.
Oh. Voilà.
Et bien voilà.
Un petit rebond.
Un petit rebond, voilà, pour un petit hommage à cette personne.
Et il aurait pu être secrétaire d'État au commerce de Barack Obama, je trouve.
Oui.
Voilà.
Donc, chaque camp a son info.
Tout ça pour vous dire que ces trois personnes, donc Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, ont investi 100 millions d'euros chacun dans ce laboratoire d'intelligence artificielle français qui s'appelle QTI. L'annonce a été faite en novembre dernier. Et là, on commence à voir les premiers fruits de la recherche en fait, de QTI. Et ces premiers fruits sont quand même assez impressionnants. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que QTI a mis au point un assistant vocal qui fonctionne à l'intelligence artificielle, qui ne comprend que la voix et qui arrive à faire des choses bluffantes. On vous diffuse un petit bout de la keynote de cet après-midi et évidemment, on débriefe tout ça juste après. Écoutez.
I'm going to climb Mount Everest next month. And
okay, that's incredible. What kind of gear do you need to bring?
Well, that's what I wanted to talk about, actually. What do you think I need?
Well, you'll definitely need some climbing gear. You'll need climbing shoes, a harness, a belay plate and a rope.
Alors, ça, GPT-4o le fait, d'accord ? Rien de neuf. Ce qu'il y a de nouveau dans cette histoire-là, c'est la rapidité, le temps de latence qu'il y a entre l'humain qui pose la question et la réponse, en fait, de l'IA. Ça a toujours été un petit peu le problème, même si GPT-4o a fait d'énormes progrès là-dedans. Là, on voit que, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parfois même l'IA coupe la parole de l'interlocuteur parce qu'elle a compris, en fait, ce qu'il voulait dire. Là, c'était l'Everest, comment grimper l'Everest, etc., etc. C'est impressionnant. Ils ont mis 6 mois pour faire ça. D'accord. Ils sont pas beaucoup, hein, je crois.
Ces
ingénieurs, ils sont 8.
C'est
la crème de la crème. Hein. La crème de la crème.
Mais les stagiaires étaient sur le...
voilà.
Toute l'équipe était là, au complet.
Mais ça prouve qu'en 6 mois, avec les bons cerveaux, on arrive à faire un truc incroyable qui commence.
Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que si j'ai bien compris, ils sont partis du principe de se dire que pour construire une IA qui est basé uniquement sur la voix, on ne va pas la faire repasser par le texte pour ensuite composer de la voix. Donc, on lui a donné à manger, finalement, pendant ces 6 derniers mois, à Moshi, puisque c'est le nom, justement, de cette interface vocale, comme Moshi Moshi en japonais. On reste dans cette métaphore-là chez QTI. On lui a donné à manger des sons, du bruit, des voix mêlées, des voix dans un contexte aussi de bruit différent. Et ce qu'elle va réussir à faire en 160 millisecondes, ce qui en fait... Encore une fois, l'IA vocale la plus rapide pour l'instant mise sur le marché, en tout cas dévoilée au grand public, c'est qu'elle va pouvoir à l'écoute du son qui lui est proposé, anticiper, définir le bruit qui peut venir après. C'est comme ça qu'elle irait beaucoup plus vite que les autres. En tout cas, c'est ce que les ingénieurs de Qtail expliquaient tout à l'heure lors de leur keynote à l'IRCAM, le symbolique aussi pour pouvoir dévoiler cette voie-là. Mmh. Et que de ce fait-là, elle arrive aussi, en comprenant le contexte, à anticiper sur les émotions qui sont transmises dans la voix et donc de pouvoir se caler sur l'émotion à l'instant T de l'émetteur de ce message.
Donc avoir une réponse adaptée en fait au ton de la question en quelque sorte.
L'idée de départ, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir la discussion la plus fluide possible avec un assistant vocal et gagner du temps. Donc on ne le fait pas passer par le texte. Mm-hmm. Son job à elle, c'est pas de se dire je fais du texte, je fais de l'image, je fais de la vidéo. Donc on lui donne pas ces éléments-là.
Oui, elle fait que de la voix.
Exactement. On ne lui donne pas ces éléments-là à interpréter ou sur lesquels s'appuyer pour pouvoir ensuite discuter. Elle fait finalement comme si on faisait, nous, en tant qu'humain, un apprentissage d'une langue étrangère. Moi, par exemple, en anglais, je ne repasse pas par le français pour pouvoir parler en anglais. Salim non plus. On parle directement dans la voix native dans laquelle on veut s'adresser. Ben, j'ai l'impression que Moshi, elle fait la même chose.
Elle fait pareil. Ce qui est intéressant, c'est que en 6 mois, ils ont réussi à entraîner ce Moshi à partir d'enregistrements d'appels téléphoniques qui ont été passés entre 1994 et 2002. Mmh. Ils ont donné tout ça à Moshi, qui a ingurgité et est arrivé à ce résultat. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne marche qu'en anglais pour l'instant.
Absolument.
Ils n'ont pas entraîné la langue française. Salim, sur ça ?
Alors, deux choses. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, ils ont en plus créé des datas synthétiques aussi. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils partent de voix existantes et ils génèrent de nouvelles voix faites par l'IA finalement, ce qui donne un corpus de données beaucoup plus important que si tu pars juste avec les données que tu as, parce qu'à un moment, tu arrives et tu es limité en termes de vision. Donc ça, en tout cas en termes d'audio. Donc ça, c'est intéressant. Pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, juste bluffant en fait, parce que vous l'avez dit tous les deux, en 6 mois, c'est assez impressionnant d'être arrivé au même niveau, voire au-delà de ce que fait un GPT-4o, et ça fait un petit moment qu'il bosse dessus, avec moins de moyens, moins de temps.
Oui, bien sûr.
Donc tu te dis, waouh, quand même, bravo, bravo à l'équipe. Moi, je suis assez bluffé. Là où, et encore une fois, ce n'est pas une critique, puisque un, très bluffant, deux, ils l'ont annoncé, c'est qu'une démo. Là où il va falloir vraiment travailler, c'est effectivement sur cette latence. Et d'ailleurs, je crois que c'est même moins que 160, hein, je crois qu'ils sont en dessous des 10 millisecondes en termes de latence, qui est juste hallucinant. En fait, on n'a jamais vu ça, c'est pour ça que c'est assez dingue.
C'est pour ça que d'ailleurs la voix synthétique coupe la parole
exactement.
De l'interlocuteur, parce qu'elle comprend ce qu'il va dire avant qu'il ait terminé la phrase.
Voilà. Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est là où il va falloir vraiment fine-tuner à ce niveau-là, pour que tu ne sois pas dans une conversation parfois comme avec un humain, où c'est super désagréable, où t'as pas fini, l'autre il te coupe en permanence, parce qu'ils se sont retrouvés comme ça dans la démo, je parle mais l'autre me recoupe la parole, et là ça va être désagréable pour l'humain qui sera en face.
À tel point qu'il y a des moments où on se demandait si c'était pas une démo prescriptée en
exactement.
Réalité, et finalement pas, parce qu'on voyait la réaction même des ingés qui étaient en train de se dire, ça y est, elle est allée encore beaucoup trop vite, c'est pas possible, elle nous refait le coup. Et même à des moments, certains ingés, je crois que l'ingé en l'occurrence s'appelle Neil, elle lui disait, mais stop, arrête-toi. Et elle continuait quand même, elle voulait absolument aller jusqu'au bout de son raisonnement.
Très bavarde, Moshi.
Et sur le cocorico, et après je pense que Frédéric aura plein de choses à dire là-dessus, mais donc cocorico, assurément, et on en parlait avant d'entrer sur le plateau, petit quand même warning sur, purée, maîtrisez l'anglais quand vous faites des présentations. L'anglais est pas mauvais, mais l'accent et des personnes qui présentent en fait, est à travailler, et c'est là où et c'est toujours moi mon warning que je dis depuis des années sur la techno. À partir du moment où tu arrives à avoir une techno qui est human-like, donc qui va ressembler de plus en plus à un humain, c'est à nous de nous développer de plus en plus sur ces capacités-là. Donc à un moment, si tu vas être plus enclin à parler à une IA qui devient hyper fluide et moins enclin à parler à un humain qui est pas si fluide parce qu'il a pas bien bossé et son niveau d'anglais et sa prononciation.
Après, on les a pas embauchés pour leur niveau d'anglais.
Justement, c'est là où c'est, moi je l'ai toujours dit, hein, vraiment on le voyait bien chez Google, c'était la blague entre l'ingénieur français et l'ingénieur américain. Il y a un moment, si tu ne sais pas présenter tes projets, t'auras plus de mal à lever, t'auras plus de mal à faire passer. Donc, ça fait partie du job où tu mets quelqu'un d'autre à la place.
Après, ils ont pas besoin. Enfin, pour l'instant, il faut qu'ils arrivent à convaincre des investisseurs français.
Non, mais attention, c'est encore une fois.
Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un détail par rapport à
ce qu'on a fait. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on arrive, on est en train de voir notre spécificité française aujourd'hui, c'est la frugalité. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire le grand truc. Et ça, je trouve que là, on a un vrai apprentissage par rapport à d'autres. À une époque, on aurait essayé de dire que fait ChatGPT, on va faire la même chose. Les images à voir. Là, que ce soit soit Mistral, hein, qui s'est concentré sur une partie. D'ailleurs, ils le disent, on consomme moins, etc. Eux le disent aussi. Ils disent que ça peut tourner en local sur les appareils. Et je trouve que là, on est en train de voir l'école française un peu sur la frugalité. Hein, c'est comme on avait une école française dans le monde embarqué à l'époque, hein, où il fallait développer avec en consommant moins d'énergie, tout ça, enfin la grande époque des débuts de l'électronique embarquée. Et puis derrière, ils réussissent à avoir alors toute cette partie, on va dire reconnaissance vocale, synthèse vocale, ça, tout ça. Je dis pas que c'est simple, mais bon, c'est géré. Mais moi, je trouve que c'est surtout ça, parce que la détection d'émotions, on l'a aujourd'hui. Il y a plein de logiciels qui le font. Savoir ce que les gens vont anticiper, on le voit dans les chatbots, ça arrive. Mais moi, je trouve que c'est justement tout ce qu'ils arrivent à faire avec moins, quoi. Et je trouve que c'est là où la performance, elle est vraiment forte. Après, oui, la rapidité, etc. Mais ça dépend combien il y a de processeurs derrière. Hein,
Non, parce qu'il y en a beaucoup plus en face côté US des serveurs.
Non, je pense que c'est une optimisation des algorithmes.
Ils peuvent en avoir beaucoup sur juste cette partie-là. ChatGPT, on va pas comparer ça, mais voilà, moi je trouve que là, c'est vraiment ça, moi, qui m'impressionne, c'est qu'on arrive déjà l'équipe, même la frugalité en termes d'équipe, ils sont pas 800 développeurs, et voilà, c'est ce talent français, et je trouve que là, on a vraiment, et là on retrouve un peu l'école mathématique française qui est toujours, on agit sous contrainte. Nous, c'est pour ceux qui ont fait des études d'ingénieurs, des études de maths, on agit sous contrainte. On nous dit jamais, voilà, allez, lâche-toi, trouve le truc. On dit non, alors lâche-toi, mais voilà le périmètre. C'est ça. Et les ingénieurs, les X et tout ça, c'est ce qu'on leur demande à chaque fois. Et là, eh ben, c'est exactement la même chose. Et moi, je trouve que c'est ça qui est admirable dans leurs travaux. Et voilà. Et donc, bravo. Et puis, on leur souhaite derrière.
Si je peux me permettre juste un petit bémol sur ces bravos, ça aurait été bien d'avoir une ingénieure aussi.
On a des talents
en intelligence artificielle et en ingénierie. On a des talents féminins en ingénierie et notamment en intelligence artificielle que Xavier Niel pourrait aussi mettre à profit chez QTI.
Non, mais peut-être, mais il y en a dans l'équipe. Si tu as regardé le slide,
elle était dans la voie de Moshi, mais elle n'était pas sur scène.
Peut-être que spécifiquement sur ce truc-là, moi ça me rappelle une fois, on était chez Google, j'arrive, il y avait un truc qu'on présente. Je me prends un tacle, le même que le tien. Les gens du jury me disent « Ah, ben, je pensais que chez Google, il y avait des femmes. » Je dis « Oui, il y a des femmes, so what ?» Et ils me disent « Ben, vous auriez pu en avoir. » Ben oui, mais les gens qui ont bossé spécifiquement sur ce projet, ils trouvent que ce sont des hommes. Donc après, je peux leur mettre des perruques, je peux mettre quelqu'un d'autre, mais faut pas ramener ça, tu vois,
c'est compliqué, hein, moi, pour en connaître beaucoup quand même de sociétés qui démarrent et tout ça, ils s'obligent parfois, à aller chercher, à se dire, bon, on est six garçons, que la septième, ce soit une embauchée fille, c'est hyper compliqué. En plus, dans un domaine très précis, c'est hyper compliqué.
Il va falloir s'habituer à ce que ce soit compliqué et à les trouver.
Pardon ?
C'est tout.
Juste, pour terminer avec Utah, il y avait une autre démo qui était très intéressante. C'était la possibilité, en numérisant la voix de n'importe qui en 7 secondes, d'arriver à, après, le faire dire à cette personne qui a parlé pendant 7 secondes, à peu près n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé durant la keynote, puisqu'ils ont numérisé la voix de Xavier Niel, qui était dans l'assistance. Et après, il a poursuivi une discussion sur l'intelligence artificielle, qui était tout à fait correcte, très intéressante. Mais ce n'était pas lui qui disait ça. Et c'était bluffant, Fred. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. On a vraiment l'impression que c'était Xavier Niel qui parlait, alors qu'il était dans l'assistance et qu'il disait rien.
Xavier lui-même, au premier rang, était assez bluffé par la démo qui lui était proposée. C'est vrai que si l'ingénieur n'avait pas fait une rupture en expliquant ce qui allait se passer, on aurait très bien pu passer de la voix naturelle de Xavier Niel.
Et tout le monde aurait été bluffé.
Moi, l'autre chose qui m'a bluffé aussi là-dedans, c'est qu'on on a réussi à tourner un peu tout le côté éthique, bien. Faut voir un peu leur périmètre dans lequel ils ont contrôlé tout ça. Mais parce que la grande difficulté, c'est la gestion des erreurs, c'est l'éthique et les biais, c'est qu'elles répondent pas à côté, et tout ça là encore, on est assez fort dans ce domaine parce qu'on se souvient.
On ne sait pas pour l'instant. Mais t'as raison.
Dans ce qu'on a vu là, si tu veux ChatGPT, t'as vu au début, voilà.
C'est génial ce qu'ils ont fait, mais là tu peux pas le dire. C'est tout petit et c'est très limité. Quand tu dis ok pour aller sur le Mont Everest,
c'est là aussi où
il faut que tu aies des bonnes chaussures de marche. Excuse-moi, tu vas pas faire des tonnes d'erreurs.
Mais justement dans la démo, c'est ça que je trouve important chez nous, de pas lâcher dans la nature un produit comme ChatGPT.
Parce que encore une fois, dans les démos de ChatGPT, ça a toujours été contrôlé. T'auras la même chose en fait.
Mais non, parce que
après à l'usage, si tu donnes
ChatGPT, on a très bien vu, ils l'ont ouvert dire tout de suite et on a vu que ça partait dans tous les sens.
Ce que je te dis, c'est quand tu as OpenAI qui fait une démo en on stage comme ça vient d'être fait, c'est carré, c'est super. C'est après quand tu l'utilises. Donc demain, si tu me dis la même chose parce que tu l'as utilisé, je te dis oui. Aujourd'hui, je te dis pas non, je te dis juste que on ne peut pas avec cette démo savoir s'il y a un dérapage éthique ou non puisque on ne l'a pas testé.
Oui, à part entre le moment où ils font la démo et le moment où ils la mettront en public, c'est pas comme ChatGPT à partir du moment où ils l'ont mise, elle était le lendemain
Je vais peut-être vous mettre d'accord, vous pouvez tester. Ah oui, Moshi, depuis ce soir, puisque pendant que vous parliez, je suis allé sur le site de Qtie, et vous pouvez, en fait, il y a écrit Try Moshi, et là je suis sur l'interface, alors on ne le fait pas parler parce que voilà, on est dans un studio, etc. Mais en tous les cas, on peut se connecter pour faire parler Moshi.
Et là, donc, on pourra dire.
Et là, on pourra tester, effectivement. Mais et c'est allé très vite. Et la promesse est tenue. Ouais. Ils ont fait la conf ce matin, enfin cet après-midi, et le service est déjà en ligne.
Tu pourras tester ces 70 émotions différentes, puisqu'elle est censée pouvoir générer 70 émotions vocales différentes, et aussi des accents, puisqu'elle peut aussi prendre l'accent français, si tu lui demandes. Moi, je n'ai pas tout à fait compris son accent français, mais c'était charmant.
Bon, en tout cas, bravo. Franchement, c'est bluffant, ça fait plaisir. Et autant on est vraiment aussi impressionné par Mistral, mais c'est beaucoup moins, comment dirais-je, c'est beaucoup plus abstrait Mistral. On sait qu'ils font des choses superbes, mais on n'a pas vraiment d'exemple, spectaculaire à se mettre sous la dent. Là, on a un truc.
Par rapport à un OpenAI, là où eux ils sont dans une nouvelle brèche quelque part et c'est intéressant. Mais juste pardon, c'est marrant ce que tu disais sur la frugalité. J'aime bien. Mais j'ai pas la même lecture. C'est-à-dire que là, c'est pas être frugal pour moi, c'est être conscient de tes contraintes et de tes limites. Et ils ont pas tout le pognon, tous les serveurs qui aux US.
C'est ça la frugalité.
Ouais, c'est pas un choix. C'est ce que je veux dire. C'est bien.
C'est eux qui s'imposent. Mistral.
Ils ont pas les moyens.
Bon, enfin, ils ont 300 millions. Quand même.
300 millions en 6 mois.
Mistral a commencé avec 10
millions. Mais là, je suis pas d'accord avec toi parce que même s'ils avaient les moyens, c'est comme Mistral. Mistral, dès le départ, ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose qui soit beaucoup moins consommateur. Faut qu'on travaille sur les algorithmes. On en parlera tout à l'heure dans les data centers. Et eux, c'est exactement pareil. Et moi, je voudrais rajouter un truc. Alors, on va nous dire oui, CMAC. CGM, Rodolphe Saadé, c'est notre nouveau président. Prenons du recul par rapport à ça, on comprend. C'est qu'on a un industriel qui se lance. Et ça, je trouve ça important. Et moi, c'est ce que j'aimerais voir un peu plus chez Mistral, de voir un L'Oréal. Alors, ils mettent tous un peu d'argent. Mais là, on a un industriel. Alors, bon, il s'avère que on en est très proche aujourd'hui, mais ça aurait été un autre, j'aurais dit la même chose. Il a mis 100 millions. Xavier Niel, c'est son univers, c'est la tech. Eric Schmidt, c'est son univers, c'est la tech, ses investisseurs. Là, on a un industriel. Il fait quoi? Il transporte des conteneurs, il fait de la logistique. Il se dit, j'en ai besoin pour mon métier, j'investis. Et là, je trouve que ça, c'est un appel à tous les industriels, alors qu'ils soient dans l'industrie là, du transport, de l'énergie, à se dire, mais il faut qu'on soutienne. Et derrière Mistral, aujourd'hui, 600 millions qui lèveraient des fonds, très bien. Mais moi, j'aimerais bien voir arriver un Total Energy, alors qui donne un peu d'argent, un LVMH qui donne certainement un peu d'argent, mais d'autres industriels, les grands de la pharma, tout ça, qui viennent, mais carrément, à coût de 100 millions, et pas juste, je mets 10 millions pour voir, et puis on verra. Et ça, je trouve que c'est une leçon à retenir aussi de ce projet.
Salim, ta réflexion et après on change de sujet.
Je suis salarié de BFM Business, 1000 fois d'accord avec toi, Rodolphe Saadé. Super. Et t'as raison, il faut vraiment plus. Et je pense qu'au-delà du fait de pousser l'IA, c'est de pousser une IA française, pousser une techno française, et qu'il y ait des industriels qui investissent dedans. Je trouve ça en effet super. Xavier Niel le fait depuis longtemps, c'est top. Mais avoir, comme tu dis, quelqu'un qui arrive et qui met 100 millions pour développer en si peu de temps, c'est génial.
Alors évidemment, 100 millions, c'est beaucoup d'argent, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes françaises qui ont les moyens d'investir 100 millions dans le secteur qui, aujourd'hui, est scruté par tout le monde et qui va bouleverser notre société.
Pour certaines, dans le luxe notamment, ils sont en train de se poser des questions pour avancer beaucoup.
Oui, mais qu'ils arrêtent de se poser des questions et voilà, sortent le chèque.
Je veux bien.
Non, mais sérieux.
On a des systèmes, on a des Thalès, on a tout ça, mais c'est vrai qu'on en a plein dans tout un tas de domaines.
T'as raison, c'est ce que je dis en permanence.
Allez, on enchaîne, et on parlait beaucoup d'OpenAI, on va y revenir, parce que, vous le savez, OpenAI, voilà, c'est la star de l'intelligence artificielle générative. Ils ont passé un accord avec Apple il y a quelques semaines de cela, on en parlait, qui a été dévoilé durant la WWDC, ce qui veut dire que dans quelques mois, on aura sur le prochain iPhone des fonctions d'IA avancées. Ce qui est intéressant, et c'est l'actu d'aujourd'hui, c'est que Apple se rapproche d'OpenAI, puisque Phil Schiller, qui est le directeur des App Store, tu disais tout à l'heure, Marjorie, va entrer au conseil d'administration d'OpenAI.
Alors, c'est une entrée au conseil d'administration prochainement qui ne lui donnera pas de droit de vote
non,
au board.
Il sera observateur.
Absolument. Tout comme, d'ailleurs, l'observateur voilà, oui. de Microsoft, qui n'a pas de droit de vote, même en ayant payé 13 milliards par ailleurs de dollars, mais qui est là pour observer. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup, on en sait plus sur le deal qui lie désormais OpenAI et Apple pour Apple Intelligence, qui a été en effet annoncé au WWC. Et ça veut dire que le partenariat n'est pas... C'est un partenariat d'échange de technologies, c'est pas un accord financier. Il n'y a pas de deal avec des plein de zéros derrière
Oui, c'est du voilà. Win-win, on va dire.
Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que potentiellement, ça donne à Apple le même droit de regard que Microsoft sur la prise de décision et le process de prise de décision chez OpenAI. On se souvient que les boards chez OpenAI ne sont pas toujours très tranquilles. On a tous vécu ensemble ce grand moment de l'automne en mode festen ce week-end où, en l'espace de 48 heures, on a d'abord Sam Altman qui est débarqué par le board, puis... Satya Nadella qui passe des coups de fil dans toute la Silicon Valley en se disant c'est pas possible, mes 13 milliards vont pas servir à rien, j'essaie de récupérer Sam Altman et d'essayer de faire pencher le board dans une autre direction, puisque la grande question qu'essayait de trancher le board à ce moment-là, c'était de savoir si OpenAI était toujours fidèle à ses intentions premières de recherche et d'impact pour l'humanité et non pas de business. Malheureusement, quand les raisons du business commencent à s'infiltrer quelque part, en général, c'est elle qui gagne. Et donc, du coup, Sam Altman est redevenu CEO d'OpenAI au bout de ces 48 heures complètement folles qu'on avait vécues tous et toutes ensemble ici. Ça va permettre à Apple de vérifier que la gouvernance est quand même bien menée, qu'il risque d'y avoir un petit peu moins de remue, de remaniement que ce qui s'est passé en 2023.
Ils seront au courant des dernières innovations, bien avant qu'elles soient publiques.
Ce qui est plutôt pratique. Et surtout, moi, je me suis amusée à aller voir qui avait été nommé dans les dernières nominations au board d'OpenAI. C'était en mars dernier. C'est assez intéressant parce que tu as notamment un ancien général de l'armée américaine. Tu as
Figissimo,
alors
bien
qui
sûr,
est chez Instacart maintenant, mais
Meta.
Qui était avant chez Meta. Ouais. Et tu as surtout Larry Summers,
qui est française d'ailleurs, Fiji.
Absolument, les sétoises même. Et tu as Larry Summers surtout, qui est l'ancien secrétaire au Trésor américain de Bill Clinton, qui a été aussi président d'Harvard par ailleurs, qui est très proche de Barack Obama et des démocrates. Mais c'est assez intéressant de voir que le board est diversifié en matière de gouvernance.
C'est pareil pour tous les boards.
Oui, non, mais ça évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Ouvrez votre micro, monsieur.
Ouais.
C'est ce qui est intéressant, c'est de voir aussi avec qui, du coup, Phil Schiller et Microsoft vont devoir composer au sein de ce board.
Fred ?
Oui, ce qui est marrant, c'est que Phil Schiller, il est passé par tous les métiers chez Apple. C'est lui qui était c'est lui qui a soutenu Steve Jobs quand il était malade. Et puis, il a été sur tous les projets, sur l'iPad, l'iPod, sur les Mac. Alors, un peu moins sur l'iPhone, mais il a travaillé sur les Mac OS, donc l'Apple Watch. Donc, il a vu un peu toutes ses stratégies produits. Donc, c'est quelqu'un qui est très polyvalent. Puis, auparavant, dans les 2000, il était dans les développements logiciels. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien. Il a toutes les relations. C'est parce que ça aussi, c'est utile. Bon, même si. J'imagine l'équipe de OpenAI a les bonnes relations, mais il est dans ce secteur depuis tellement longtemps, il connaît tous les ressorts, tous les pièges et tout ça. Donc pour aider la société à se développer. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils disent que quand il y aura certaines décisions, il devra sortir de la salle. Bon, ça on le connaît, dans les conseils d'administration, c'est souvent comme ça. Il y a des choses où on sort. Mais je pense, faut pas oublier que dans un conseil d'administration, en général, c'est aussi dans la gestion des crises. Et ça, je trouve pas mal d'avoir quelqu'un qui est un peu costaud, parce que OpenAI en a vécu déjà. Sa courte existence existe depuis quelques années, mais là, depuis qu'ils sont sortis sur les feux des projecteurs, ils ont connu quand même quelques crises. On peut imaginer qu'ils en connaîtront d'autres. Et puis derrière, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est lui qui est souvent à l'origine des rachats par Apple de beaucoup d'entreprises. Donc peut-être que là, voilà, il pourra distiller ses conseils sur tout ça.
Voilà, il est arrivé en 97 chez Apple, Phil Schiller. Salim, alors, l'arrivée d'Apple au conseil d'administration d'OpenAI. Franchement, on ne l'a pas vu venir, celle-là.
Non, on ne l'a pas vu venir. Et c'est... En fait, ça c'est... Je ne l'ai pas encore complètement intégré, pour être honnête.
Non, puis je me demande les gens de Microsoft comment ils ont réagi.
Non, mais c'est
exactement ce que je me dis.
Allez, finalement, on est tous amis.
Il faut que l'IA, on développe tout ça ensemble parce que ça va coûter tellement cher, allons-y. Non, mais
jamais.
C'est quand même bizarre.
Donc ça, je ne pense pas que ce soit cette option. Mais effectivement, c'est un coup à plusieurs bandes. Donc c'est un peu encore connecté partout dans ma tête. Mais en fait, si tu veux, déjà, moi, ma première analyse, c'est de me dire c'est un super coup d'Apple. Je ne sais pas forcément si c'est... bien perçu, comme tu disais, par Microsoft. Parce que tu me disais, ils ont quand même investi 13 milliards, ils ont tout posé dessus. Aujourd'hui, ils se rendent compte que petit à petit, OpenAI va devenir
un vrai compétiteur par rapport à leur propre intelligence artificielle. Avoir un Apple au conseil d'administration, ça veut dire que ça les renforce aussi, eux, pour le développement de leur propre intelligence, leur Apple intelligence. Et en parallèle, ils sont en train de jouer le jeu avec Google, de faire un partenariat avec Google, qui est le concurrent direct d'OpenAI.
Mais ça, on en a déjà parlé, on se dit... Non pas qu'ils s'en fichent, mais eux, ils veulent être up-to-date. Si OpenAI avance plus vite, eh bien au moins, ils seront à OpenAI.
Je ne parle pas d'Apple. Moi, pour Apple, c'est un super coup. Mm-hmm. OpenAI, à un moment...
tu parles pour Microsoft.
Non, je parle d'OpenAI, pour le coup. Tu as quand même Apple, qui est dans ton conseil d'administration, et qui demain va chez Google pour faire des deals. Google, c'est ton concurrent direct. Tu vois, c'est un truc à multibande.
Et derrière, c'est qui? C'est les mêmes actionnaires. C'est les BlackRock, c'est les KKR. Enfin, c'est...
Oui, mais ce ne sont pas les mêmes dirigeants.
Ouais, mais quelque part, les grands actionnaires de toute cette boîte, c'est exactement les mêmes.
Donc, raison, mais c'est pour ça que je dis, c'est un truc à multifacettes que j'ai pas encore bien super mappé parce que.
Mais n'oublions pas qu'Apple va apporter une richesse incroyable à OpenAI, parce que effectivement il y aura des services gratuits, mais vous rendez compte, il va avoir des centaines de millions de personnes qui vont peut-être passer à la version payante d'OpenAI. Donc en fait, Apple va être un apporteur d'affaires à OpenAI qui va être énorme, et c'est ça le deal. Finalement, goûtez un peu aux fonctionnalités de ChatGPT, et puis si ça vous plaît, vous passerez à la caisse. Quoi. Non,
c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est un siège d'observateur qui aurait coûté 13 milliards à Microsoft,
oui,
et qui coûte un deal absolument faramineux aussi, mais
potentiellement,
pas financier.
Il faut voir.
Dans la mesure où tu vas déjà être présent sur 300 millions de devices Apple, rien que comme ça à vue de nez, je ne les ai pas comptés en un, mais c'est à peu près ça. Au dernier compteur, ça devrait être ça à peu près. C'est quand même assez impressionnant et faramineux dans l'idée de relais de croissance que ça peut générer.
On arrête là pour cette première partie, bientôt 20h30. On revient dans un instant, on a encore une bonne demi-heure à passer ensemble pour débriefer l'actu avec Marjorie, avec Salim et avec Fred. On va parler des émissions de carbone de Google et de Microsoft qui explosent à cause de l'IA, on va en parler. Et puis on parlera aussi de Tesla, ça sera avec Étienne Braque dans quelques instants, juste après l'info éco qui arrive. À tout de suite, merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir pour débriefer l'actu, Marjorie Paillon, journaliste, Salim Nassur, fondateur de Mars avec deux A et ancien directeur marketing de Google Cloud.
J'aime bien la façon dont tu le dis.
Oui, c'est bon.
Ben voilà. Je vais cloner ta voix.
C'est ça.
Va
sur Qtail.
Exactement.
C'est bon, ça va marcher. Et Frédéric Sibotel, bien évidemment, journaliste à BFM Business qui vient d'éternuer en plus d'une manière tellement élégante. C'est ça qui est incroyable chez Fred. Même l'éternuement est beau.
C'est vrai.
C'est beau, hein, quand
même. C'est vrai, c'est un bel homme.
Autre bel homme. C'est Étienne Braque,
toujours
avec nous. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
C'est gratuit, ça fait plaisir. Étienne, bonsoir, journaliste à BFM Business. On va parler de Tesla ce soir.
En effet, avec Tesla qui a publié hier ses immatriculations du deuxième trimestre. Donc, c'est des résultats préliminaires avant les résultats financiers qui seront publiés à la fin du mois, avec un nombre d'immatriculations qui recule au deuxième trimestre de quasiment 5%, sous les 443 956 précisément. Alors, c'est un recul, mais c'est un recul moins prononcé qu'anticipé par les analystes, puisque les analystes de FactSet s'attendaient à 436 000 livraisons. Alors c'est un marché qui en recule, ce n'est pas la première fois, en début d'année le marché était contrasté. Alors d'un côté, vous avez des analystes de Wedbush qui estiment que le pire est derrière Tesla grâce au mini rebond enregistré en Chine et une stabilisation des prix, et puis de l'autre côté des analystes qui sont un petit peu plus inquiets, qui se montrent beaucoup plus prudents, notamment chez Edmunds, avec notamment des prix qui ont baissé d'une façon importante ces dernières semaines chez Tesla, des marges qui sont en repli, et puis surtout en Chine, des ventes qui peinent à rebondir, d'autant plus que vous avez des prêts à taux zéro qui ont été mis en place en Chine afin de stimuler la demande, et puis surtout des constructeurs chinois qui sont de plus en plus offensifs, que ce soit sur leur territoire, mais aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec une montée en gamme et puis surtout des prix plus accessibles que les modèles Tesla. Alors néanmoins, le titre grimpe ce soir de quasiment 4%. Rendez-vous compte, il a gagné plus de 20% depuis vendredi soir, avec donc Wall Street qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et puis Tesla qui fera encore l'actualité dans ces prochaines semaines avec le robot taxi qui sera développé, qui sera annoncé le 8 août prochain, et puis d'autres annonces qui ne sont pas à exclure demain, puisque Elon Musk devrait faire des annonces lors d'un salon international dédié à l'intelligence artificielle. Ça sera à Shanghai.
Voilà, donc on risque d'avoir encore pas mal de choses à raconter concernant Tesla. Merci beaucoup Étienne Braque. Alors messieurs, dames, Tesla, Voilà, mauvaise passe, c'est ce que disait Étienne hier, hein, les ventes, enfin en tout cas les ventes s'effondraient. Visiblement, c'est pas si grave que ça, tout va bien. En tous les cas, il semblerait qu'il y ait un rebond de vente de véhicules électriques.
Alors, est-ce qu'on peut revenir à la promesse initiale d'Elon Musk il y a quelques années en lançant Tesla?
Premier constructeur mondial.
Voilà, exactement. La réalité, c'est qu'on n'y est pas vraiment. Hein, on va pas se mentir, on n'est pas sur le premier constructeur mondial en matière de véhicules électriques et peut-être de véhicules avec un certain degré d'autonomie par ailleurs. Aujourd'hui, préfère plutôt parier, Étienne le disait, hein, sur l'IA et sur la robotique. On a tous ici beaucoup parlé de ces images incroyables, notamment d'Optimus et des robots qui sont développés au fur et à mesure par Tesla. Donc, est-ce que finalement qui semblait être de la R&D, un side business, va devenir une ligne stratégique plus importante chez Tesla? Ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir observer dans les mois, les semaines, les années à venir. Et puis, il y a quand même un concurrent sérieux pour Tesla sur ce marché des EV, des véhicules électriques. C'est BYD, c'est le chinois, qui en l'occurrence produit plus vite que lui, plus que lui.
Et moins cher.
Et surtout, qui lui est en train de dépasser ses propres records. Je crois que sur ce trimestre-ci 2024, on a 20% de plus de voitures produites et vendues que ce n'était le cas sur le premier trimestre 2024. Mmh. Et en plus, juste une toute question de soft power et pour les amateurs de foot qui pourraient nous regarder éventuellement. Je rappelle que BYD... Non mais BYD, c'est le sponsor officiel de Euro FIFA 2024 en Allemagne et pas Volkswagen. Donc même en matière d'image et en matière encore une fois de soft power, il y a des concurrents de
changement
Tesla
d'époque
qui
hein, quand même. BYD qui remplace Volkswagen.
Non mais quand même.
Donc, c'est symbolique. Hein.
Quand
c'est
aujourd'hui,
avec... en Allemagne en plus.
Oui mais quand aujourd'hui on a accumulé plein de problèmes de production de Tesla, quand on a débattu de est-ce que le Cybertruck va vraiment pouvoir circuler ou pas, quand il y a eu des problèmes sur l'accidentologie aussi de Tesla dans certains États américains sur les véhicules autonomes, quand on a parlé de tous ces revirements de stratégie là du côté d'Elon Musk et que finalement aujourd'hui, la figure d'Elon est peut-être plus problématique pour les marques et les entreprises qu'il représente qu'autre chose, ben c'est intéressant.
Après, petite réflexion avant de vous donner la parole, hein, Salim et Fred, on est dans un contexte aussi où aujourd'hui, tout le monde attend de la part de Tesla une petite voiture à moins de 25 000 $.
Et on sort le Cybertruck.
N'arrive pas, alors que BYD, lui, a un plan là-dessus. Et bien évidemment, il va inonder l'Europe avec des voitures qui seront à 25, voire même 20 000 €. Donc, on attend Elon Musk là-dessus. Il y a une rumeur comme quoi ça serait dans les cartons, mais c'est toujours décalé. Il y a ce robotaxi. Est-ce que le robotaxi va régler tous les problèmes? Je suis pas sûr, hein, parce que le robotaxi, c'est valable que dans certaines villes américaines, peut-être en Asie sur des grands axes, mais imaginez un robotaxi à Paris.
Mais là aussi, en l'occurrence, sur les robotaxis, il y a aussi des concurrents sérieux en Chine, hein, qui ont déjà fait beaucoup d'essais, qui ont déjà fait leur premier vol.
Salim.
Alors, je vais vous donner une analyse un peu différente. Vous savez, moi, j'aime bien être un peu en biais, mais...
On dérape.
On think out of the box. Ah,
tu fais du drift, en fait, c'est ça.
Oui, tu fais du drift avec la Tesla.
Je fais du drift avec la technologie, en fait. L'autre jour, justement, c'est marrant, il y a 10 jours, j'intervenais chez un constructeur automobile que je ne vais pas nommer, et pour penser un peu, c'est quoi la voiture du futur? Dans 5, 10 ans, où sera la voiture? Et la première chose que je leur ai dit, c'est, votre problème, c'est que vous réfléchissez comme un constructeur automobile. Et là, ils m'ont dit, bah oui, c'est ce qu'on est. Je dis, bah c'est bien le problème, en fait. Et je pense, alors, je suis pas dans les secrets des dieux de Tesla, mais il y a un moment, je pense que Elon Musk ne réfléchit pas comme un constructeur automobile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment, donc, il était un des tout premiers à avoir fait décoller ce marché, ce qu'il a fait. Océan Bleu. C'est-à-dire qu'en gros, il est là, il a pris les parts de marché qu'il voulait.
Oui, il y avait personne sur la route.
Il y avait personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, dont des Chinois qui arrivent, avec des modèles qui sont moins chers, hyper compétitifs et avancés technologiquement. Et là, moi, je serais à sa place, je me dirais, OK, est-ce que je veux aller me battre là-dessus ou est-ce que je cherche un nouvel océan bleu? Quand vous cherchez une voiture à 25 000 $, lui, il trouve des robots à 10 000 $. Et des robots, il va pouvoir en vendre dans les entreprises, dans les foyers.
C'est pas 20 000?
Son objectif, c'est d'aller à 10 000 $.
Ouais, 10 000 $, d'accord.
L'objectif, c'est d'aller à 10 000 $. Donc, il y a un moment, si tu te dis que tu peux mettre un robot dans toutes les usines, dans tous les foyers, peut-être qu'en effet, le focus aujourd'hui d'un Elon Musk, c'est se dire comment je capitalise sur l'IA et sur les robots, et que ce coût-là, il est le coût de la voiture, c'est un coup passé en fait. Il est déjà au next step, tu vois. Et c'est rigolo parce que dans certaines de mes conférences, j'avais fait une image comme ça avec Midjourney, où je montrais l'image que j'ai en première image que j'ai faite. C'était une Tesla qui partait. Et de l'autre côté, tu as un avion supersonique. Et c'est comme ça que j'explique un petit peu le décalage qu'on a entre l'Europe et la Californie souvent. C'est que nous aujourd'hui, on est en train de découvrir Tesla. Tout le monde roule en Tesla, tout le monde est content d'avoir sa Tesla. Mais il y a 10 ans, des gens roulaient en Tesla en Californie, en fait. Donc nous, on est en train d'aller en Tesla. De l'autre côté, ils sont déjà en train de penser au next move. Et je pense qu'Elon Musk, il est déjà parti de ailleurs.
Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'en effet, que la robotique et l'IA, c'est des relais de croissance pour Tesla.
Mais complètement.
Et demain, la stratégie, elle est plus sur la voiture individuelle.
Exactement, c'est ce que je vous dis. C'est que lui, il est déjà sur le next move.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que le marché, il n'est pas sur le next move. Le marché, aujourd'hui, il est dans la voiture. Et aujourd'hui, dans la voiture, tu vois tous les grands constructeurs, pour qui, hormis les luxes, hein, les Porsche, Ferrari, tout ça, mais tous les autres, ils ont une voiture un peu vache à lait, une voiture qui coûte pas cher, qui se vend très bien.
Et la
qui,
Golf de Volkswagen.
La Golf de Volkswagen.
Ça, c'est quand tu penses constructeur. Regarde le
oui, mais aujourd'hui, oui, mais ce que
il annonce moins de ventes et l'action
oui, mais ce
monte.
Que je, oui, mais ce que je te dis voilà. Aujourd'hui, c'est que je suis d'accord avec toi. Il pense un coup d'avance et tout ça. Mais aujourd'hui, on est le public, les gens qui achètent des voitures, ils sont dans l'univers de la voiture. Et ça, pourquoi il en vend moins parce que les gens, ils sont pas en train de réfléchir à ce qui va se passer. Donc lui, il pense certainement le coup d'après.
Oui, mais il faut pas qu'il se déconnecte du marché actuel.
Mais aujourd'hui, le marché de l'auto, ça reste quand même le marché de l'auto. Et les Chinois et le risque, c'est que alors peut-être qu'un jour il va dire bah Tesla oui bah voilà j'ai fait un test et je continue avec les robots IA et ça me rapportera beaucoup plus et tant mieux pour lui. Mais je trouve qu'aujourd'hui il oublie un peu, même si sa vision, je suis d'accord avec toi, hein, ces robots, ces IA, il y a toute une pensée autour de tout. Et puis même on pourrait même rajouter X et SpaceX et je vais aller sur Mars et l'électrique, etc. Non, enfin voilà tout et il a toujours une pensée, enfin tout est connecté un peu dans sa tête et il a des idées assez claires, voilà, de tout ça. Mais là, on parle du marché auto et le marché auto aujourd'hui, les clients, le marché auto, il réfléchit auto aujourd'hui. On réfléchit pas robot IA. Et là, c'est son grand défaut aujourd'hui. Et les Chinois, eux, ils réfléchissent voiture. Le jour où il faudra réfléchir robot IA, ils y seront déjà. Par contre, oui, le constructeur auto chez nous devrait un peu plus avancer. Et il lui manque, pour que ça marche, pour moi, il lui manque cette voiture vache à lait qui.
C'est là où je pense pas. C'est que encore une fois, si son entreprise Tesla, c'est une voiture d'automobile, je te suis. À 80%, même pas à 100%, mais à 80%. Lui, je pense que son entreprise Tesla, c'est une entreprise qui fait plein de choses. Et ça ne va pas se limiter à voitures. Donc pourquoi aujourd'hui mettre toute son énergie là-dessus? Et tu vois, aujourd'hui, tu as des entreprises qui fonctionnent très bien avec de très belles marges, Porsche pour ne pas les nommer, mais qui ne sont jamais descendues en dessous d'un segment d'à moins de 60 000 euros. Et ça fonctionne bien. Est-ce qu'il a besoin?
Non, mais là parce qu'on est dans le luxe. Mais une Tesla, c'est pas une voiture. C'est pas. C'est enfin le.
Oui, mais c'est pas luxe.
C'est pas luxe.
C'est pas comparer une Tesla à une Porsche.
D'autres voitures, c'est pas.
Non, d'accord.
En termes de finition.
Non.
C'est pas une voiture de luxe.
Un modèle S. Je suis désolé. Un modèle S, ça coûte plus de 100 000. Je ne parle pas du modèle Y ou du modèle 3 de tout le monde.
En qualité intérieure, va chez Mercedes ou va chez Audi ou les.
Enfin, ou BMW.
Les BMW, la qualité à l'intérieur, on est.
Non,
quand
mais
même
là, tu me parles de qualité, moi je te parle de clients. En fait, si tu regardes, en fait, tu fais la segmentation de marché, les clients qui ont acheté des modèles S au départ sont des clients qui achetaient des Porsche. Moi je les connais, ces gens-là, on était en Californie, machin, etc. Et. À une époque, ils avaient soit une Jaguar, soit une Audi parce que ça faisait européen. Et à un moment, ils ont acheté américain en plus et c'était Tesla. Okay, ça, c'est le segment S et il n'y a pas tant de personnes que ça. Et il a pris sa part de marché qu'il voulait dessus. Quand tu descends d'un niveau, tu vas avoir du modèle Y et du modèle 3. Et là, c'est pareil. Tu vas être sur des couches quand même de la population qui gagnent bien leur vie. Est-ce que tu as envie de descendre sur une couche inférieure? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y a besoin pour une marque comme Tesla? Je suis pas certain.
Le problème, c'est que s'il a pas le modèle inférieur, il va se faire manger par les.
Bon, en tout cas, il y pense.
En fait, il y a plein, encore une fois, de. Tu vas chez Jaguar, tu vas chez plein de constructeurs, ils ont pas de modèle à 20 000. Ça n'existe pas. C'est pas.
Oui,
c'est
mais
pas
eux, ils sont sur un autre créneau.
Après, il y a la réalité des.
Regarde même Volvo.
Je pense que pour aujourd'hui, si on veut que
Volvo,
la voiture électrique,
c'est Geely.
Oui, maintenant t'as raison. Oui.
Si on veut que la voiture électrique se démocratise, il faut que les prix baissent, parce que effectivement, on peut pas rester à 30 000 euros prix d'entrée pour une voiture électrique.
Bah, donc
c'est pour ça que
batteries.
Peugeot, Citroën essaient de sortir des véhicules.
C'est deux débats différents.
Non,
moi,
non,
je
mais
pense
bien sûr.
Il a fait sa part du job.
d'électrifier cette industrie automobile qui ne se bougeait pas. Il leur a donné un coup de pied dans le derrière. Et maintenant, je peux me tromper, il se dit, OK, moi, je commence à regarder le next
step. Donc, pour toi, il ne va pas sortir une Model 2 qui serait à 25 000 dollars, par exemple.
Je ne vois pas forcément un intérêt fort pour, pour un Tesla de faire ça.
On arrête là ?
Parce que autrement, le problème, c'est que ses clients, ils sont sur le marché de la voiture. Voilà. Ils ne sont pas sur le marché du next step.
Oui, mais c'est le marché du next step. Ils seront
là. L'avenir nous donnera raison.
Il n'y a que Marjorie qui est sage ce soir.
Tu vois, quand je peux être extrêmement sage.
Oui, c'est vrai.
C'est fou.
Oui,
c'est vrai. Qu'on ne dirait pas comme ça, mais...
tu as dit ce que tu voulais dire.
Exactement. Mais j'ai plein de choses à dire encore.
Mais je sais.
D'ailleurs, je vois que mon micro n'est pas... Je ne sais pas si vous m'entendez depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas allumé.
Non, on t'entend. Même,
ah oui, c'est celui qui est là, d'accord.
Voilà, c'est celui qui est sur ta gauche. Allez, autre sujet. Très important aussi, c'est en fait l'intelligence artificielle et les émissions de carbone liées à cette IA et notamment générative. C'est Google et Microsoft là qui tirent la sonnette d'alarme. Alors ils tirent la sonnette d'alarme, mais bon, ils sont responsables de ça aussi. Hein, oui. C'est-à-dire que ils poussent l'IA générative, ils se rendent compte qu'ils explosent en fait leur quota d'émissions carbone. Ils tiendront pas leurs objectifs. Oui. Et ça, ils l'ont pas vu venir, Marjorie.
Alors oui et non. Alors il faut dire que d'abord, du côté de Microsoft et du, alors on est sur des nuances hein, d'engagement en termes de neutralité carbone. Du côté de Google, on veut être net neutral, donc on veut être à une neutralité carbone en 2030. Du côté de Microsoft, on veut même aller vers un bilan carbone inversé qui devrait être même négatif pour 2030. Mmh. Et chez Amazon, parce que ça va forcément être le troisième gaillard de la bande, on veut être net neutral pour 2040. Donc on se donne encore une petite dizaine d'années supplémentaires pour y arriver. La problématique, c'est qu'avec tous les efforts qui ont dû être consentis par ces trois grands géants en matière de recherche, développement et de mise sur le marché de produits d'intelligence artificielle et en plus d'IA générative, forcément on explose les compteurs. On explose les compteurs en matière d'utilisation d'énergie, d'électricité brute, mais aussi d'eau pour pouvoir aller stocker toutes ces datas dans les data centers qui sont notamment...
Là on parle des émissions CO2.
Oui, on parle des émissions CO2, mais tu as aussi la partie eau. Je ne dis pas que l'eau est comptée dans les émissions CO2, mais dans le bilan
infiné, le bilan environnemental n'est pas bon du tout.
Alors, les chiffres, on va pouvoir débattre des chiffres si vous le souhaitez, mais ça se compte en milliards à chaque fois d'émissions, de tonnes d'émissions et en milliards de litres aussi générés du côté de l'eau. Moi, ce que je retiens, c'est que Google, enfin, tous ces géants sont obligés de publier leur bilan environnementaux parce que c'est le moment jamais, et parce que aussi aujourd'hui on a de la taxonomie et on a aussi des critères ESG.
Et eux ils achètent des crédits, hein, d'ailleurs.
Ils achètent des crédits carbone, et on a aussi une taxonomie et des critères ESG.
Ça coûte une fortune d'ailleurs ça.
Oui, et des critères ESG qui font que désormais c'est soumis aussi au marché et à la sanction du marché et du régulateur. Mais ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est de regarder du côté des plus technotimistes d'entre eux, qui ne font pas partie de Google, de Microsoft et d'AWS, mais de leurs partenaires et fournisseurs. Quand, par exemple, Sam Altman nous dit « Ne vous inquiétez pas, au contraire, plus on va pouvoir développer de l'IA et de l'IA générative, et quand on aura une super intelligence, donc de l'IA gen, vraiment, là, on va pouvoir résoudre toutes les questions liées au climat. » Ben, formidable. Donc, il faut encore plus dépenser en capacité d'électricité. Ouais,
c'est-à-dire que, la réponse
à cette pollution,
ça sera l'intelligence artificielle.
Quand on aura bien dépensé toute l'électricité et toute l'eau du monde, on pourra enfin avoir une réponse géniale. Quand tu vas voir du côté de AWS, là, pour le coup, vraiment le patron des data centers, lui va te dire, à chaque fois qu'on est confronté à un challenge, on a su innover. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas innover. Il n'a peut-être pas si tôt, pas tort en langue. Je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas innover en matière de meilleur refroidissement des data centers et d'utilisation de l'électricité. Et le mieux, c'est quand même juste chez NVIDIA, Jason Huang, qui dit plus on va déployer des calculs rapides, plus finalement on aura moins besoin de surconsommer de l'électricité, puisqu'on ira beaucoup plus vite et donc on sera moins consommateur d'énergie.
Bon, Salim, dans un instant, Fred.
Bienvenue dans le monde de la frugalité, encore une fois, enseigné par les ingénieurs français.
Monsieur Frugal.
C'est optimisation des infrastructures.
Qu'est-ce qu'il est frugal ?
Non, mais optimisation des infrastructures. Alors, ils l'ont fait avec un peu de serveurs virtualisés, tout ça, mais il y a beaucoup à faire dans ce domaine. On a développé rapidement des data centers. Heureusement, les nouveaux ont fait un peu attention à tout ça. Optimisation des algorithmes et des modèles. Ça, les Américains, ils ne sont pas très forts dans ce domaine-là. optimiser les algorithmes et les modèles. Enfin, je ne dis pas que les Français sont meilleurs, mais en tout cas, les Français ont montré une certaine qualité. Pour déployer aussi, nous, on aime bien, alors nous, les Français, on aime bien déployer par étapes et tout ça. Eux, les Américains, ils y vont en masse. GPU, on met GPU. Et puis là, ils commencent à dire, ah tiens, les TPU, c'est peut-être pas mal. On est en train de revoir un peu tout ça. Ensuite, tu as tout ce qui est la gestion, planification des ressources. Est-ce que je vais consommer, où est-ce que je vais installer mes data centers? À quelle heure je vais consommer plus? Est-ce que dans une région venteuse de tout ça, il y a toute cette partie-là? Et puis après, il y a toute la partie formation, sensibilisation des ingénieurs. Là, c'est le travail pour la planète entière, parce que là, tout le monde aujourd'hui, il va un peu gaiement. Et moi, je pense que c'est tout ça, sur ce sur quoi il faut tout retravailler. Enfin, voilà, il y a 4-5 points comme ça. Et aujourd'hui, alors, on a les Google, les AWS et Azure, ils sont en train de remplacer, enfin, dans les data centers, optimiser leurs infrastructures. Mais voilà, nous, je pense qu'un OVH a fait beaucoup plus dans ce domaine ces derniers temps, bon, avec moins de moyens, avec tout ce qu'on peut imaginer face à ces hyperscalers. Mais voilà, c'est là où je dis que nous, on a peut-être notre carte à jouer. Je reviens avec mon drapeau Cocorico, parce que nous, on est habitué à ce truc-là. On doit faire des infrastructures qui consomment moins, on doit faire des algorithmes qui consomment moins, on doit faire attention à quelle heure on va consommer de l'énergie. On n'a pas beaucoup de GPU parce qu'elles sont piquées par les autres. Eh bien, on va essayer de développer des... Voilà, c'est un peu tout ça.
Ça me rappelle le slogan des années 70, on n'a pas de pétrole.
Bon, on n'a pas de pétrole, mais on a Fred Simotel.
On est dans la même philosophie. C'est dingue, Salim.
Pas exactement, malheureusement. Enfin, de mon point de vue, on n'est pas dans la même philosophie parce que là, tu as quand même besoin de pognon et pas que des idées, donc on n'a pas ce pognon et donc on n'a pas le pétrole et donc c'est bien ce que tu dis, mais c'est pas scalable, on peut pas le mettre à l'échelle au niveau mondial tout ce qu'on fait en France, et c'est dommage
je dis pas que la France est mieux, je dis aujourd'hui pour faire des data centers qui consomment, enfin qui émettront moins de CO2.
Oui, mais en fait, non, parce que même si tu trouves... Alors, sauf si tu as vraiment le truc et que tu vends ensuite à tous les hyperscalers, à la Google, Amazon, Microsoft, etc., et qu'ils l'intègrent dans leur data center...
Attends, je ne dis pas que c'est les Français qui détiennent ça. Je dis, voilà les efforts à faire pour tout le monde autour pour consommer...
Pour toi, ce n'est pas un Français qui va développer cette...
Non.
Donc les Américains continuent à le faire comme il le faut.
On a un peu plus travaillé ça que les Américains qui... je déploie les data centers, j'installe des serveurs...
Il ne se passera jamais le temps où un Américain mettra une technologie française dans un data center.
C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que.
Par accident, peut-être.
Sur tout ce que je disais, optimisation de l'infra, des algorithmes et tout ça, on a pris un petit peu l'avance.
Alors, on change, on y va sur la réflexion, Salim.
Alors, moi, c'est marrant parce que ça me rappelle. J'ai invité à un dîner l'autre jour avec plein de patrons qui. C'était le thème RSE et IA. Et j'ai commencé en leur disant, mais c'est antinomique. Tu peux pas, en fait. À aujourd'hui, c'est complètement antinomique. Effectivement, plus tu vas faire d'IA, plus tu vas consommer. Après, il y a deux écoles. Et vous en avez parlé un peu. Il y a l'école qui dit, à la Sam Altman, on fonce et on va trouver des solutions. Et c'est pas complètement déconnant. Mm-hmm. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, notamment les puces Nvidia, notamment toutes celles qui sont sorties, et particulièrement la prochaine, beaucoup plus de puissance, beaucoup moins de consommation énergétique. Donc quelque part, l'équation n'est pas complètement délirante de se dire avec les progrès technologiques, on va savoir consommer moins. Donc ça, c'est pas mal.
On en construit plus, émissions de CO2. Moi, je reviens sur mon histoire.
Mais par contre, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de puissance. Donc le net-net, il est quand même négatif parce qu'on va consommer plus. Et il y a des gens qui disent on est dans de la totale folie.
3-8% de.
On est dans de la totale folie. Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis quand même côté un peu plus folie. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas, de mon point de vue, réussir à aller suffisamment vite pour trouver les solutions par rapport à ce qu'on émet aujourd'hui. Et comme c'est en train de boomer, tu vois, et c'est un peu le pompier pyromane qui me
fait. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à éteindre un incendie trop important.
Voilà.
On sera prêt.
Mais exactement. Parce qu'on ne veut pas travailler sous contrainte.
Il y a Microsoft qui disent on est étonné. Non, tu ne peux pas être étonné, en fait. C'est toi qui crées cette technologie.
Ils ont même recruté des ingénieurs pour travailler dans le nucléaire, pour faire des SMR, des petits réacteurs nucléaires.
Il était vrai déjà depuis 2019 dans certains data centers. Mais là, ça a complètement explosé, en effet.
Donc, l'hypothèse de Sam Altman ne se réalisera jamais. On aura fait exploser la planète avant.
Non, mais lisez le bouquin de Gilles Babinet, la Green AI, qui est pas mal, qui montre comment l'IA peut apporter des solutions à différents métiers.
Il nous reste 5 minutes, 6 minutes. J'aimerais quand même qu'on évoque le sujet Netflix.
Merci.
Pendant les infos, tout le monde se bat mandaté pour évoquer ce sujet-là. Enfin, pas tout le monde, mais...
Oui, certaines personnes. Voilà.
Écoutez, voilà. En ces périodes électorales, là, c'était la majorité. Je suis désolé.
C'est vrai. Et puis Marjorie qui consomme beaucoup de Netflix, c'est intéressant.
Qui consomme beaucoup de Netflix. Et non, mais parce que c'est fondamental pour le futur du marché du streaming.
Alors, on en parle. L'actu de Netflix, c'est que, voilà, dans certains pays, Netflix est en train d'enlever une ligne d'abonnement sur son offre, qui a d'ailleurs été retirée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez l'abonnement qui est à 10 $, je crois, enfin à peu près, vous ne pouvez plus l'avoir. C'était l'abonnement, on va dire, assez intéressant parce qu'on avait tout le contenu Netflix, on pouvait télécharger, on avait du 1080p, mais on n'avait pas de pub. Et là, dans certains pays, je crois que c'est au Royaume-Uni et au Canada,
notamment, ils déploient
Netflix. Envoie des messages à ses abonnés qui ont cette offre-là à 10 $ pour leur dire attention les gars.
Essentielle.
Voilà, l'offre essentielle, elle est plus essentielle. Elle est superflue maintenant. D'ailleurs, on va l'appeler l'offre superflue. Vous allez le choix entre soit downgrader et passer à l'offre payante avec la pub qui est à 6 $, soit vous montez en gamme à l'offre à 14 $, mais cette offre à 10, eh bien, elle va disparaître.
Mais en l'occurrence, c'est pas superflu pour Netflix, parce que ce qui se joue là, c'est le futur du financement de la création et surtout du marché du streaming. Aujourd'hui, les relais de croissance pour le streaming, alors Netflix a innové un peu avant 2014, avant l'arrivée en France, mais Netflix, c'est une boîte qui pivote d'abord tous les 10 ans. Et qui a très bien su le faire dans ses premières décennies. Là, 2014-2024, la façon de pivoter, on pensait que ce serait sur le fait d'aller disrupter le cinéma en tant que tel, alors qu'elle avait déjà disrupté la télévision. Finalement, c'est dans le modèle économique qu'elle va aller chercher son pivot et son relais de croissance. Tout le monde se bat aujourd'hui, et c'est le cas même en France pour des acteurs comme TF1, avec TF1+, M6+,
MyCanal.
MyCanal. Le relais de croissance en matière de business, il est sur la publicité digitale. Tout le monde veut aller chercher une part. Tout le monde veut aller chercher le CPM que YouTube a su si bien. Et la pub ciblée aussi. Mais tout le monde veut aller chercher ce segment-là que YouTube s'est si bien commercialisé. Sauf que typiquement, un TF1, quand il va aller voir son annonceur, il va dire, il va falloir qu'il montre et qu'il explique pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de venir prendre cette publicité chez lui sur TF1+, plutôt que de le laisser à YouTube. Même si c'est beaucoup plus cher de venir investir chez lui. Pour Netflix, finalement, c'est la même chose. Oui, Netflix a démarré en se disant « Venez chez moi, je suis une super contre-proposition au contenu existant sur un écran qui s'appelle la télévision, parce que justement, je ne vous impose pas de coupure pub et que vous avez la liberté de venir consommer le contenu que vous souhaitez, au rythme que vous souhaitez. Là, je réimpose de la pub, parce qu'en l'occurrence, si je ne prends pas ce segment-là sur le marché de la pub digitale...
C'est quelqu'un d'autre qui va le prendre.
Complètement. Or, c'est déjà le cas de Disney+, c'est déjà le cas aussi de Prime Video qui a aussi lancé son offre publicitaire. Donc on est, et qui est de façon plus militaire à la limite, même, parce que quand t'es abonné Prime, t'es obligé d'avoir de la pub au bout d'un moment, même si t'as choisi une offre dans laquelle t'en avais pas au départ. Donc c'est vraiment là où ça se joue sur la bataille du relais de croissance pour ces streamers-là, qu'ils soient gratuits ou pas.
Salim, si tu n'as rien à dire, on enchaîne avec
Fred. Non, mais de façon très, très triviale, en fait, sans aller jusqu'à cette stratégie que tu décris très bien, c'est il y a un moment, il faut entrer du cash.
Oui.
Donc, il y a un moment, tout ça se finance. Un des moyens faciles, et ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre, de financer des médias, c'est de faire de la publicité. Il y a des annonceurs qui sont prêts à payer. Et là, tu vois, tu prenais le cas de TF1, la grande force d'un YouTube à la base et qui devient aujourd'hui la grande force d'un Netflix, c'est d'avoir un réseau qui est mondial. Là où TF1, bah, tu vas être limité sur, sur une zone géographique.
Oui. Mais tu as de la data ultra qualifiée.
Oui, mais là aussi. Mais là aussi, sur un Netflix, tu as de la data encore plus ultra qualifiée que sur un TF1 parce qu'il la capte de façon native au départ et que tout a été prévu pour, ce qui n'est pas le cas chez TF1. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est juste un moment où il faut rentabiliser. On ouvre les vannes de la publicité et c'est logique ce qui se passe. En fait.
Fred, pour terminer, ton micro.
En guise de clin d'œil, je me dis juste un peu comme Meta doit se dire « Ah, oh, flûte, nous, on veut avoir des abonnements. » Enfin, c'est un autre domaine, mais ouais. L'abonnement payant...
Oui, t'as raison.
L'abonnement payant sans pub et l'abonnement... Et on me l'interdit. Enfin, bon, ça, c'est un autre univers.
C'était la petite blagounette de Fred.
Voilà, mais non, non, mais...
Elle est belle.
Non, non, mais là, Netflix, ça revient... Netflix, n'oublions pas qu'au départ, c'est une société qui a monté toute son offre sur de la data de ses clients, la data de ses contenus, qui ensuite est devenu producteur, enfin voilà, toute cette aventure. Et aujourd'hui, la data, elle leur sert pour tout ça. Elle leur sert pour avoir de la pub. encore plus ciblé. La pub, ça marche, ça, et quand c'est ciblé, ça marche encore mieux. Donc ils ont ça. Et puis moi, je pense qu'aussi avec cette pub, comme ils sont producteurs, ben ils vont commencer aussi à faire des placements produits, ce genre de choses. On le voit.
Oui, hein, c'est ce qui existe
dans pas mal de films.
Donc ils sont vachement en avance par rapport à un test.
Oui, oui.
Donc voilà, ils ont cet atout là. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir ces deux pieds. Puis quelque part, ça rassure les investisseurs aussi.
Mais complètement. Et après, on sait que
parce que quand on est toujours en train de regarder le nombre d'abonnés, oui, on dit ah, ils ont perdu 13 millions d'abonnés, tout
non,
ça.
Non, mais parce que Netflix là, avec a toujours la pub, été très dit, endetté. Voilà. Par ailleurs,
pas grave, ils compenseront.
Et juste en dernier mot là-dessus, l'actuel CEO, enfin, il y a deux co-CEO chez Netflix, mais Greg le dit très bien. Il dit voilà, nous, les pays dans lesquels on opère, dans lesquels on a le plus d'abonnés, ça représente 80% du marché de la pub digitale. Donc on ne peut pas ne pas y aller. Et donc je préfère avoir, à la limite, perdre des abonnés à 10$, mais en gagner plein à 5,99.
Oui, ouais. At the end of the day, on parle d'argent et c'est un moyen on assez simple.
Il faut scruter en fait la progression du chiffre d'affaires de Netflix, oui, dans les mois qui viennent.
Ça risque d'être
à mon avis, ça va être sympa. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci pour cet excellent moment à tous les trois, comme souvent d'ailleurs. Merci beaucoup Marjorie.
Comme toujours.
Je dis comme toujours, moi, je suis déçu du
comme
souvent.
Comme moi le souvent.
Si je dis comme toujours, comme vous n'êtes pas là tous les soirs, ça casse un peu le compliment.
Ouais, mais si vous j'avais c'est l'impression d'avoir un 7 sur 10, quoi. On n'était pas 9,99.
On devrait se noter à la fin, là.
C'est oui, ça. Comme Jacques Martin, voilà. les plus anciens.
Je suis
même
de
moi, j'ai connu Jacques Martin.
De l'école des fans. Merci beaucoup Marjorie Paillon, donc journaliste. Merci à Salim Nassur.
Merci.
Fondateur de Mars avec deux. Ah, voilà. Et merci à Frédéric Simotel.
Avec deux T.
Avec deux T. Bien évidemment, journaliste à BFM Business. Vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble, avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Et on va parler véhicules autonomes. Et je vais vous présenter deux sociétés qui œuvrent dans ce domaine-là. Vous allez voir, ça avance très, très, très vite. Je vous les présente dans un instant, juste après le Tech Flash de Léa Benaïm et puis de notre petit détour du côté de la rédaction de Tech & Co. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.